If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite.
Et on bandera quand on aura envie de bander.
C'est drôle.
Où ça va que tu parles comme ça, hein ?
Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend
« Ils vont voir si je suis pas un bonhomme !»
on a l'impression que ça veut dire autre chose.
Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Aujourd'hui, nous recevons l'auteur, compositeur, interprète, acteur, réalisateur et dessinateur Philippe Catherine à l'occasion de la sortie de son dernier album Confession. Un homme multiple, comme sa définition du bonhomme.
Bon, bonhomme, c'est un adjectif. Être bonhomme, c'est comme ça que je vois. C'est quelqu'un d'un peu rond, dans son esprit, dans son corps. C'est ça que je dirais. Il y a le bon, il y a homme, un adjectif, c'est le bon.
Quand on dit rond, c'est plutôt...
Dans sa tête aussi.
Ouvert d'esprit.
Oui, souple.
Souple.
Souplesse. Il vaut mieux être souple que dur. Hein. C'est bien connu. Hein. Les masseurs vous le diront.
Et vous, vous êtes un bonhomme ? Vous êtes bonhomme ?
Je ne suis pas dur, je suis souple. Enfin, c'est vite dit. Enfin, j'espère l'être.
Après, on peut s'améliorer là-dessus aussi.
On peut toujours s'améliorer. Avec la souplesse, ça se travaille.
Et c'est qui les bonhommes dans votre vie ? Ceux qui ont été autour de vous ? Ceux qui vous ont inspiré ? Ou les hommes, tout court, mais comme on est dans une notion positive ?
Les hommes, il y avait mon papy, que j'aimais beaucoup. C'était le père de ma mère, qui était un homme assez fantaisiste, qui vivait sa fantaisie à côté de son travail. Il travaillait dans une usine de chaussures à la chaîne. Et il avait par ailleurs une imagination débridée. Il chantait beaucoup de chansons. Il voulait aussi il voulait être vagabond. Ça se disait à une certaine époque. Il voulait être vagabond. Pourtant, il avait 6 enfants.
Hein. Ah oui.
Ça aurait été mal vu, bien sûr. Mais seulement, il est resté à la maison.
Est-ce que quand on a 6 enfants, est-ce que réussir à pas être carré justement, il y a pas être dur.
Oui, ça, c'est très difficile, mais. C'est une image de l'homme, si tu veux, qui est pas du tout. Enfin, c'est-à-dire, l'homme c'était ça de la maison. Enfin, si on peut penser qu'un homme c'est celui qui, alors c'est tout le problème. Hein. Qu'est-ce qu'on attribue aux hommes, qu'est-ce qu'on attribue aux femmes ? C'est ça qui est assez fou. C'est très difficile. Moi, je connais des hommes qui n'ont aucun sens de l'orientation. Pourtant, on attribue ça aux femmes. Et puis, je connais des femmes qui sont très très fortes en géographie. Pourtant, on attribue ça aux hommes. Donc, il faut quand même s'en méfier de ça.
C'est sûr. Et justement, dans les bonhommes que vous avez en référence autour de vous, est-ce qu'il pourrait y avoir des femmes, justement ?
Ah oui, oui.
Vous pensez à des personnes ?
Bah, commencer par... ma compagne, hein, qui est plutôt dans ce registre-là, ce que j'apprécie beaucoup.
Quand on dit dans ce registre-là, c'est plus la rondeur ou c'est un côté parfois qu'il y a des qualités qu'on peut prêter aux hommes et qui
c'est
les...
Ça, c'est des qualités qu'on peut prêter aux hommes. C'est pour ça que c'est délicat de parler de ça, parce que en quel honneur on attribue, par exemple, une quelconque autorité. Aux hommes, c'est ridicule.
Est-ce que, justement, vous parliez de votre grand-père ? Est-ce que vous avez réussi à prendre ou à apprendre de ses modèles ? Et si oui, quoi ? Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis ?
Bon, mon grand-père, lui, mon papy, il chantait beaucoup de chansons qu'il inventait aussi. Il inventait des chansons, mais plus en improvisation. Il avait aussi l'amour de la langue. Il y avait le patois vendéen, qui était important. Et il était passionné par ça, les vieilles chansons vendéennes, qui m'en a appris pas mal. Hein. Et puis, il avait aussi quelque chose d'absent dans sa présence, dans lequel je me suis peut-être un peu repéré.
Et être absent, justement, c'est être un peu libre.
Oui, c'est ça. Il partait un petit peu ailleurs.
Est-ce qu'il y a un homme ou une masculinité type dans votre famille, que ce soit du côté mère, côté père? Est-ce que dans votre lignée...
Dans ma famille, disons que les hommes sont soumis aux femmes. Hein. C'est ça l'histoire familiale. Hein.
Et soumis pour leur plaisir, parce que comme ça, ils
pour,
ont...
Certainement pour plus de plaisir que de souffrance. Hein.
Et ça, vous l'avez reproduit ou...
Ah oui, complètement.
Par plaisir aussi, j'imagine.
Ah oui, ça m'arrange bien. J'aime pas trop prendre des décisions dans la vie, ça me va très bien comme ça.
Et du coup, revenons à il y a plus longtemps. Quel genre de petit garçon vous étiez ?
J'étais un garçon qu'on disait rêveur. Oh Philippe, il est rêveur, il est tout le temps dans la lune.
C'était vrai ?
Je préférerais être dans la lune que dans certains endroits, comme la classe.
Du coup, j'imagine que vous ne vous sentiez pas forcément comme les autres petits garçons ou...
Je suppose que je participais aussi à... J'aimais beaucoup le sport collectif, donc je faisais beaucoup de basket. Donc j'avais la joie de me retrouver en groupe. Je n'étais pas du tout le genre dans son coin.
D'accord.
Non, non.
Et du coup, des passions, oui, il y avait le basket, le sport en général. Il y avait déjà la musique.
La musique, j'aimais bien chanter. Dans les chorales, j'aimais bien chanter, mais j'ai accueilli la musique, moi, vers 15 ans.
Est-ce qu'il y avait des personnalités comme ça auxquelles vous vous identifiez ? Adolescent, enfant ou plus tard, mais dans une construction ?
J'aimais beaucoup mon oncle, qui avait fait mes 68. Donc, c'était un gros repère pour moi, parce que la famille était globalement quand même ancrée à droite, hein, il faut le dire. Et lui... Il avait rompu avec ça, il avait même détourné un cours de mon oncle qui était prêtre à Luçon, en Vendée. Donc cette histoire familiale, ça m'a fasciné, le fait que le neveu rentre dans la classe de son oncle et pose un piquet de grève. Donc,
une forme de rébellion
qui évidemment, pour un ado, c'était un maître à penser, quoi. Quelque chose de fascinant pour moi.
Et est-ce qu'à un moment, vous avez dû vous rebeller aussi contre quelque chose ou un ordre établi pour vous construire ? Est-ce qu'il y a des étapes comme ça où...
Oui, bien sûr. Mais bon, moi, je le fais plus lâchement. Hein. Ça n'a rien à voir. Je le fais par derrière.
Par exemple, s'il y a un moment très fort dans votre construction où vous avez dû dire non pour vous affirmer ?
Bon, on voulait que je sois prof, hein, donc...
Parce que c'était familial aussi, c'était une forme d'héritage.
C'était quelque chose d'assez familial, une tradition quasiment, et... J'ai dit non, mais toujours par moyen détourné. J'avais pas dans le frontal, pas du tout. Pas vraiment. Pas du tout, même.
Mais du coup, comment on fait ? On oublie de répondre ?
On
dit
triche,
oui.
on fait semblant d'avoir des absences. C'est le jeu du chat et de la souris. C'est un jeu, quoi. Mais j'avais pas franchement envie d'affronter les autorités comme ça, de façon aussi directe. Donc je passais par des moyens détournés. Encore aujourd'hui, j'aime pas beaucoup avoir des ennemis.
Je reviens juste un peu en arrière sur une question. Est-ce qu'il y a des personnalités publiques ou des célébrités auxquelles vous vous identifiez à des âges où un ado ou un jeune garçon a besoin de s'identifier ? Tout ce qui peut être affiché en poster dans une chambre ou...
Ah oui, c'était plutôt des joueurs de football. Hein.
Ouais. Pas de basket, du coup ?
Non, j'affichais plutôt des joueurs de football. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Mais sinon, après, un peu plus tard quand même, des basketteurs américains qui y avaient des posters dans ma chambre... Donc, c'était des athlètes. Hein. J'aimais bien. Et puis, sinon, que je réfléchisse, là, qui c'est qui me fascinait si, j'adorais Steve McQueen, par exemple, les westerns et tout ça.
Du coup, c'est quand même une masculinité très affirmée et très attendue. Le sport, le foot, le cow-boy.
Mais ce que je préférais, moi, c'était des joueurs, par exemple, si on peut parler de sport, des joueurs qui étaient plus qui avaient des cheveux longs, hein, déjà. Je mets pas beaucoup les cheveux courts. J'aimais bien quand le maillot était ressorti du short. Bref, j'avais des fétiches, du fétichisme comme ça.
Et c'est un peu de la rébellion dans un univers.
Oui, mais enfin,
donc assez carré justement, mais.
Voilà, j'étais pas très attiré par les joueurs virils, dis donc.
Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi tu regardes ton chewing-gum.
C'est quoi pour vous être viril?
Viril, c'est-à-dire que c'est une notion qui me répugne, hein. Il faut bien le dire, hein. Il faut le dire, quoi. C'est pas une notion qui me ravit, quoi.
Parce que ça se fait dans la force.
Oui, y a des chanteurs virils, par exemple, qui écartent les jambes en chantant. Ça, c'est un truc qui me plaît pas beaucoup. Ou alors une montre, une grosse montre sur scène. J'ai toujours peur qu'ils se mettent à regarder l'heure. Ça me plaît pas du tout. La montre est devenue quelque chose d'un peu un signe de virilité. Donc c'est une notion que je trouve très peu attractive. Je vois bien quand il y a des gens qui veulent prendre des positions viriles. Et ça, je fuis.
Parce que c'est des gens qui veulent dominer.
Ben, c'est des gens qui sont pas sûrs d'eux, qui sont dans le doute complet sur leur propre existence et qui essayent de se rassurer de cette façon. Et je trouve ça manque beaucoup de charme.
Est-ce que vous avez toujours été à l'aise avec votre apparence physique? Ou est-ce que vous avez eu aussi besoin de vous rassurer?
Peut-être à plusieurs endroits. Mais globalement, je vis assez bien avec moi-même, ça va.
Et ça a toujours été le cas aussi longtemps que vous en souvenez?
Ouais.
Et vous faites attention à votre apparence aujourd'hui?
C'est pas ma préoccupation majeure, hein. Faut que je m'habille tous les matins, faut bien choisir un des habits, c'est tout.
Mais c'est juste parce qu'il faut s'habiller, il n'y a pas de chercher à mettre en valeur quelque chose.
Alors non, je m'habille le matin. Je vois à peu près ce que je vais faire dans la journée, donc c'est vraiment en fonction de ça.
C'est du bon sens, plutôt.
Complètement.
Selon vous, votre physique, est-ce qu'il reflète votre personnalité, ce que vous avez à l'intérieur? Est-ce que vous trouvez que c'est plutôt en accord?
Oui, je crois. J'ai des grosses narines, par exemple, et ça répond bien à mon côté instinctif.
C'est vrai. C'est vrai que ça peut vouloir dire ça. Et pas que vous respirez beaucoup ou très fort.
Je respire bien.
Pour vous, c'est quoi le meilleur compliment qu'on puisse faire à un homme, en général?
Peut-être l'odeur, peut-être. Tu sens bon, quoi. Parce que souvent, les hommes se mettent du parfum. Et c'est regrettable. Parce qu'il vaut mieux laisser éclore leur vrai parfum. C'est pas toujours joli joli, hein, mais je trouve que c'est bien assumé, je trouve.
Et ce serait quoi le parfum idéal pour un homme?
Tout ce qui est le foin, la terre. Mais c'est pour les femmes aussi, hein. C'est un goût personnel, hein. Tout ce qui est foin, paille, foin, des bactéries, des acariens et compagnie.
Alors, changement de registre, je voudrais parler de sensibilité en général. Et en opposition au terme viril, aujourd'hui, on parle de fragilité. C'est quoi pour vous être fragile?
Quand il n'y a pas de souffrance derrière, c'est magnifique. Seulement, par moment, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils sont fragiles. Ou qui sont fragiles parce qu'ils souffrent. Donc c'est délicat comme position.
Et vous êtes plutôt de nature fragile ou plutôt solide, si je peux vous poser?
Quand même assez solidement bâti, personnellement. J'ai eu des parents très aimants, hein, donc je suis quand même assez bien construit. Je l'ai observé. Pas d'une nature dépressive ou tout ça, chose comme ça. Donc, ça a poussé, disons, assez droit.
Mais est-ce que ça peut arriver de vous laisser un peu envahir par une émotion que vous n'êtes pas capable de maîtriser, ou en général, vous êtes plutôt dans la maîtrise de ce genre de choses ?
En général, hélas, pour moi, je suis quand même dans la maîtrise. Je rate beaucoup de sentiments extrêmes. J'ai tendance à centraliser un peu. Enfin, pas centraliser, mais à pas me laisser déborder, tout simplement.
Par exemple, vous ne pleurez jamais ?
Jamais.
Parce que faiblesse, justement, ou parce
non,
que
parce
ça
que
ne
ça
vient
sort
pas,
pas. Mmh. Alors, je suis au cinéma, comme ça, j'essaie de papillonner des yeux, d'activer les glandes lacrymales, mais rien ne vient. C'est terrible, parce que c'est comme une impuissance. Hein. Ça sort pas. L'impuissance, c'est ça. Hein.
Et quand on est artiste, justement, ne pas connaître des larmes et se laisser aller qui vient avec, parfois, est-ce que c'est un obstacle à la création ou...
Non, je crois pas. Je crois pas, parce que je ressens des émotions fortes. Seulement, d'un point de vue liquide, rien ne vient.
J'envoie ce César à Thierry. Alors Thierry, c'est le personnage que j'ai eu l'honneur d'incarner dans le film. Bon, moi, je me demande toujours ce que deviennent les personnages après les films. Toi qui aimes les sucreries, qui aimes Julien Clerc, qui a un relatif succès avec les femmes. Toi, Thierry, qui quand tu parles, on t'écoute pas. Toi, Thierry, on se moque souvent de toi, un peu facilement. Bah, je me suis reconnu en toi et j'espère que tu t'es un peu reconnu en moi.
Est-ce que sans avoir à pleurer, sans aller jusqu'aux larmes, il y a des choses qui vous émeuvent à tous les coups ? Une scène dans un film, une musique, quelques notes ?
Oui. Oui, c'est des passages que j'ai repérés dans une chanson, dans un film. Je sais que...
Mais c'est pas tout le temps la même chose ?
Ça me tenaille, il y a des choses qui me tenaillent. Mais c'est souvent des choses assez positives. Ce qui, au fond, m'émeut, c'est surtout quand un groupe de gens... se solidarise pour une cause individuelle désespérée. C'est dans ces cas-là où je suis vraiment au climax.
Vous avez un souvenir de film comme ça qui vous vient ?
Oui, bien sûr. Il y a un film qui s'appelle Europe 51 de Rossellini, qui raconte un peu, enfin, qui est pas loin de ça. Bon, il y a la religion aussi qui s'y mêle, mais qui me fait de l'effet à chaque fois. Seulement, bon, ça sort pas.
C'est pas grave.
Bah merde, j'aimerais savoir ce que ça donne. J'ai pleuré, mais
pas
avant
de
mes 8 ans.
Là-dessus. Avant les 8 ans.
Quand même, je me souviens que je pleurais. Que ça s'est refermé.
Vous avez 50, presque 51 ans, si je calcule bien.
C'est ça.
C'est ça.
C'est vrai, je vais les avoir dans pas si longtemps. Oui.
Est-ce que vous avez un souvenir de plus jeune enfant? Comment vous voyez à 50 ans? Est-ce que vous avez une vision de ce que c'était d'être un homme de 50 ans?
Ben, je me voyais un peu comme je suis, à vrai dire.
C'était quoi les préjugés qui s'avèrent vérifiés, mais les préjugés que vous pouviez avoir à l'époque sur un homme de 50 ans?
Je me voyais... avec des enfants, bon bah c'est le cas, hein. Se déplacer pour aller voir des matchs de foot, je sais pas trop quoi. De se déplacer, pas comme on se déplace un peu aujourd'hui, mais comme Frankie Zapata avec flyboard, ouais, c'est ça. Je nous voyais tous en flyboard, mais j'étais dans une grande famille. Bon, le flyboard, c'est pas ça, hein, tout à fait encore, mais la famille, complètement. Et donc là-dessus, je suis comblé.
Du coup, c'est aussi bien que dans vos souvenirs.
Ce que je voyais, c'était à peu près ça. Par contre, je pensais pas du tout que je ferais de la musique ou des trucs comme ça. Je me voyais vachement dans le dessin industriel.
Ah bon ?
Oui. Dans le design, dans construire des meubles, des cafetières, dessiner, je veux dire, des voitures.
Était une passion à l'époque ou...
C'était une passion à l'époque. Je voulais dessiner des chaussures aussi. Je me voyais bien là-dedans. Puis ça a complètement raté.
Est-ce que vous avez une appréhension avec le fait de vieillir ou c'est quelque chose qui ne vous traverse pas l'esprit ?
C'est pas tellement de vieillir, c'est la mort hein, qui rôde, qui est là, partout. vieillir fait partie complètement. Non, moi j'aime bien. J'ai observé qu'on était plus pris en considération. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'avantages.
Par exemple ?
Moi, je sais pas. C'est ça. C'est-à-dire qu'on se colle à votre rythme hein, quand on est né vieux entre guillemets. C'est pas encore tout à fait mon cas. Enfin, on se colle à votre rythme. Alors, quand vous êtes jeune, vous êtes obligé de changer de braquet pour suivre les autres. Enfin, moi, ça me convenait pas tellement quand j'étais jeune, parce que
c'est une forme de respect, du coup, que
oui,
les autres ont.
Les gens se greffent au rythme du plus ancien. J'ai observé ça, et c'est pas désagréable.
Est-ce que vous pouvez faire le constat de dire que vous avez acquis de la sagesse par rapport à avant et...
Sagesse, je pense pas. Mais en tout cas, une forme de sérénité, quoi. Je sais pas, disons que je me pose plus de questions inutiles. Comme disait un certain Haricot, quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
Est-ce que vous avez des grandes angoisses, des choses que vous avez du mal à gérer, des grandes questions, justement ? Est-ce que vous avez des angoisses dans la vie, encore ?
Ouais, un max. Oui, l'angoisse de manquer. J'ai toujours eu ça. J'ai manqué un moment dans ma vie. J'avais faim, je cherchais à manger. Alors, c'est vrai que maintenant, quand je veux la nourriture, je fais des réserves. C'est pas hautement glamour, je trouve.
Du coup, c'est mettre de la nourriture dans ses poches ou en manger trop pour être sûr de jamais
avoir... Il y a ces deux côtés. C'est-à-dire j'ingurgite un max. Et puis j'en mets dans les poches. Ouais.
Et ça c'est des habitudes d'enfants de familles nombreuses normalement ou de...
Aller se battre pour avoir le bout de gras. Hein.
Et aujourd'hui vous êtes papa de 3 enfants.
Exact.
2 filles et un garçon.
Une fille et 2 garçons.
Une fille et 2 garçons pardon. Et qu'est-ce que ça a changé en vous déjà le fait d'être papa.
Bon, j'étais papa très jeune, hein, j'avais 24 ans. Ça a changé que. À 24 ans, il faut que je trouve à manger très vite. Et j'étais obligé de sortir de mon pieu et de m'activer sérieusement parce que derrière, ça criait famine. Donc, je faisais déjà de la musique, mais j'ai dû accélérer un peu le rythme, d'aller un peu contre nature parce que je suis quand même une nature plus indolente. Et je devais activer pour avoir des trucs concrets, hein, c'est-à-dire de l'argent. Hein. À l'époque, j'avais un bon filon, c'était quand j'avais 24 ans. J'écrivais des chansons pour une japonaise, Kaimi Kari. Alors c'était bien, j'adorais ça, parce que c'était payé à la chanson, en liquide. Alors je veux dire que les chansons, j'en ai fait à ce moment-là. Et donc, le fait d'avoir déjà un enfant, si ce n'est bien sûr changer la vision qu'on a du monde, du tout au tout. Bon, ben, ça m'a, accessoirement, ça m'a permis de me remuer un peu le derche.
Et est-ce qu'il y a une différence quand on en vient à être papa d'une fille ou papa d'un garçon? Est-ce qu'il y a une approche différente dans la paternité? Est-ce que ça fait un effet différent? Est-ce qu'il y a des craintes différentes? Des envies?
Non, je ne l'ai pas noté, vraiment.
Vous êtes pareil dans votre éducation, quel que soit le...
Pas pareil, parce que j'étais beaucoup plus jeune. Donc c'est très différent. Je ne pourrais pas trop dire. Mais c'est forcément différent, hein, je pense.
Et si, justement, il y a quelque chose de commun que vous aimeriez leur transmettre, qu'ils aient une vingtaine d'années aujourd'hui ou qu'ils soient plus jeunes de vous, si vous deviez choisir de transmettre quelque chose à vos enfants?
Ben, c'est deux choses d'abord, c'est-à-dire regarder avant de traverser la route, hein, c'est la base, et être à l'heure.
C'est tout.
C'est tout.
Et là, ça en fait des êtres humains...
Ah oui, respectueux et en toute sécurité.
C'est déjà pas mal, hein, c'est pas facile.
Sécurité, respect, bon. C'est une bonne base. Moi, je caricature, bien sûr.
Ça, c'est un peu un papa poule, un peu peureux qui parle.
Ben, c'est-à-dire que les papas ou les mamans ont toujours plus peur que les enfants. Dès que l'enfant naît, c'est le flip. Jusqu'à jusqu'à aeternam ad vitam. Hein. C'est la loi du genre. On a plus peur pour eux que mes parents avaient hyper peur de pour moi. Mais moi, quand j'allais en boîte, que je rentrais sur une patte, j'avais vraiment pas peur.
Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maison Neuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.